Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La mi-carême est maintenant derrière et plus que 21 jours avant Pâques. Pour nous aider à persévérer dans le mystère de ce temps liturgique, nous retrouvons notre série de carême, série d'émissions Vivante Église, spéciale carême 2018, une série, pour rappel, avec le frère Jean-Claude, franciscain, cofondateur de la communauté de l'Agneau, cette communauté d'hommes et de femmes donc consacrée à Dieu et qui vivent plus particulièrement comme charisme de vivre entre autres de la mendicité. Le thème de cette série d'émissions, les béatitudes. Frère Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ou re-re-re-bonjour. Pour cette quatrième émission de notre série de carême, pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous prenons chacune des béatitudes, ou presque, puisqu'il n'y a que 6 émissions et qu'il y a 8 béatitudes, on en regroupe certaines, et on vous demande votre éclairage pour essayer de comprendre ce qui peut paraître comme un mystère, comme je le disais en introduction, comme quelque chose de difficile à saisir. Nous cherchons à l'illustrer par des exemples dans les vies des saints, dans votre vie communautaire ou votre vie personnelle. Et puis, on finit toujours cette émission par quelques conseils pratiques. Voilà pour la courte présentation. Pardon pour ceux qui ont déjà entendu ça à 3 reprises. La quatrième béatitude, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Même question que les semaines précédentes, comment vous nous introduiriez dans cette béatitude ? On a un petit peu été aidé parce qu'il y a eu l'année de la miséricorde, déclarée par le pape François. On a fait beaucoup d'émissions autour du thème de la miséricorde, et c'est vrai que je pense que les auditeurs ont pu entrevoir quelque chose de cette miséricorde. Quel est votre propos introductif ?
Merci de rappeler les interventions nombreuses du pape François, qui est vraiment, on peut dire, le pape de la miséricorde. Et il déconcerte beaucoup de monde quand il n'arrête pas de dire, mais c'est très traditionnel chez les pères et dans la foi chrétienne, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon, que Dieu ne veut et ne fait que le bien. Voilà, c'est un petit peu emprunté à saint François, ça. Dieu qui ne nous veut et ne nous fait que le bien, de qui vient tout bien, sans qu'il n'ait aucun bien. La miséricorde, c'est cette plénitude de l'amour, mais s'engouffrant, se précipitant sur la misère humaine. Alors que l'on voit souvent que la misère humaine attire d'autres misères, ici, devant Dieu, la misère attire la miséricorde, c'est-à-dire un cœur qui s'émeut devant la misère d'autrui. Et on peut tout de suite prendre comme exemple, peut-être le plus marquant, le bon samaritain. Le prêtre passe, le lévite passe, il faut un détour pour ne pas s'occuper de cet homme peut-être mort.
Alors rappelez, excusez-moi, juste, il faut recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas, le bon samaritain, c'est donc un passage dans l'évangile où un homme se retrouve battu par des brigands sur le bord d'un chemin et un certain nombre de personnes passent devant lui.
Oui.
Alors ce n'est pas le bon samaritain, c'est quelqu'un qui s'est fait battre et plusieurs personnages passent devant lui, dont le bon samaritain.
Oui, devant ce pauvre homme. Bon, et alors un prêtre, un lévite sont mis en cause par Jésus, c'est très fort. Hein. Et puis passe un samaritain qui est un ennemi du peuple juif. Et dans l'évangile, surtout de Saint Luc, il y a toujours une petite note très fraternelle envers eux. Et ce samaritain, en voyant cet homme, est ému de compassion. Et c'est ça le ressort de la miséricorde. C'est ça que nous comprenons quand Dieu est miséricordieux, il voit le malheur de son peuple. J'ai entendu l'appel de mon peuple en esclavage en Égypte et j'ai décidé de le délivrer. C'est ça la miséricorde en acte de Dieu. Et ça marque toute l'histoire du peuple de Dieu avec ce premier départ. Hein. Et aussi, on peut penser aux promesses faites à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté, et je te donnerai la terre où tu iras. Une promesse inouïe. Et bien sûr, la terre, si c'est un héritage terrestre, mais quand on écoute Jésus, on voit très très bien que c'est les cieux nouveaux, la terre nouvelle, c'est-à-dire la charité en acte entre nous. Alors, Dieu miséricordieux, c'est la bonté de Dieu qui est attirée, ni plus ni moins, par la misère. Et dans la vie de Jésus, c'est très frappant, les malades, les possédés, les gens, dont les pécheurs, les pécheurs publics comme les publicains, tous ces gens-là attirent Jésus et sont attirés par Jésus. C'est ça, à mon sens, le premier ton que j'entends quand je dis « Dieu est miséricordieux ». C'est comme ça que je le vois à travers ce mystère de Jésus comme attiré par la misère des hommes, avec cette phrase étonnante de saint Jean « Dieu a tant aimé le monde, plein de souffrances, tel le monde que nous connaissons, qu'il a envoyé son Fils unique pour le sauver. » Et la miséricorde, c'est ce cœur de Dieu qui, devant la détresse et le désordre qu'il y a dans l'humanité, envoie son Fils. Qu'est-ce qu'il a envoyé? On disait ça l'autre jour. Il a envoyé Dieu. C'est très étonnant, hein? Voilà.
Donc ça, c'est le propos introductif. Alors, vous avez commencé à faire des allers-retours avec l'Ancien Testament, comme toujours dans cette émission. Hein, pardon d'être peut-être un peu trop scolaire pour certains de nos auditeurs, mais qu'est-ce que Dieu avait révélé de sa miséricorde dans l'Ancien Testament et quelle nouveauté avec le Christ?
Alors, l'Ancien Testament, j'ai déjà nommé le cri des esclaves vers Dieu. J'ai entendu le cri de mon peuple. Et il envoie Moïse pour le sauver à grand renfort de grands miracles. Et puis, sur la route du désert, qui est très intéressante, parce qu'elle montre constamment un peuple rebelle qui se révolte contre tout ce que Dieu fait, qui s'en prend à Moïse, qui l'a sorti de l'esclavage, et qui dit « Pourquoi tu nous avais amenés à mourir dans ce désert où ils ont erré pendant 40 ans ?» Où nous mourons de faim, et on se souvient des bonnes marmitées de choux et d'oignons quand nous étions en Égypte, et maintenant, voilà. Dieu entend les récriminations de son peuple, et sa miséricorde envoie la manne, et envoie la nourriture, la caille, et donne de l'eau à profusion. Ce sont ces signes qui montrent la miséricorde de Dieu. Ah oui, devant les misères de son peuple, Dieu intervient de manière très étonnante. Alors, c'est pas tant le caractère miraculeux de ces choses qui me touche ici, c'est le sentiment qui habite le cœur de Dieu. Il voit la misère des misérables et ça l'attire. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament.
Oui.
Qu'est-ce que le Christ vient accomplir et révéler?
Alors, c'est très étonnant parce que, comme tout... La suite, Ancien, Nouveau Testament, c'est toujours la même chose. Et Jésus l'a dit et répété, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Pourquoi dit « Je ne suis pas venu abolir » ? Parce que beaucoup de ces paroles avaient une telle nouveauté et une telle intensité. Et sa liberté était telle par rapport à toutes les pratiques que les prêtres et les lévites, les pharisiens avaient rajouté à la loi. Et alors Jésus, d'un coup d'épaule, bouscule tout cela pour rendre aux hommes la liberté. Et ça, à mon sens, c'est un grand acte de miséricorde de Jésus devant toutes ces lois devenues étouffantes, comme toutes les lois que les hommes font pour les hommes. On voit très bien que Jésus donne un grand coup d'épaule là-dedans pour tout foutre par terre et dire non, maintenant, il s'agit d'une seule chose, la miséricorde de Dieu qui vient vous visiter et qui va vous rendre miséricordieux. Et d'ailleurs, la parabole renverse la formule. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mais on voit très très bien que la miséricorde est un don de Dieu qui est donné à l'homme. Si l'homme le fait fonctionner, ça aboutira à une miséricorde divine dans sa vie. Alors, on ne peut pas ne pas nommer l'épisode de la femme adultère, condamné pour adultère, amené en public par les gens qui l'ont... Cette femme a été prise en flagrant d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de lapider ces femmes. Et toi, que dis-tu? Alors Jésus ne répond pas, il se baisse, il écrit dans le sol. Et ils insistent. Alors il se relève, les accusateurs insistent, Jésus se relève et prononce cette phrase immense, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Silence, et puis les accusateurs s'en vont, l'évangile dit, les uns après les autres, en commençant par les plus vieux. Et c'est bonne vue humain, c'est frappant. Alors, ils s'en vont, et Jésus reste seul, en face de la femme qui était condamnée à être lapidée, et il lui dit, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné. Personne, répond la femme. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il conclut en disant, va et ne pêche plus. Et j'avoue que ce petit épisode me remplit de plus en plus d'étonnement. Jésus a une miséricorde totale envers le pécheur et une exigence radicale par rapport au péché. C'est très très fort. On pourra revenir là-dessus quand on parlera de l'actualité.
Pour finir justement, quelle urgence à travailler, à vivre cette béatitude. Si le pape François l'a mis presque au début de son pontificat, cette année de la miséricorde, c'est peut-être qu'il avait une intention pour le monde et peut-être même aussi pour l'Église, non ? C'est...
Les deux. Je me rappelle que dans les débuts, il a beaucoup répété, ça m'impressionnait, il ne faudrait pas que le confessionnal devienne une salle de torture. Et quand il disait ça, il a demandé la miséricorde. Dans l'année de la miséricorde, il a envoyé des prêtres avec un pouvoir énorme de pardonner tous les péchés qui autrefois étaient réservés à l'évêque, donc notamment l'avortement. L'avortement était considéré comme si grave qu'un prêtre ne pouvait que dire, il faut que l'évêque en donne la permission pour vous communiquer le pardon sacramentel de Dieu. Autre chose qui se passe dans la conscience d'une personne avec Dieu. Mais il y a des gestes dans l'Église qui sont extrêmement précieux, et l'avortement était un péché réservé. Certains sacrilèges aussi, le meurtre, bon. Et puis, le pape, il a dit, ouvrons à fond les vannes de la miséricorde, c'est ce dont notre temps a le plus besoin. Et de fait, dans la société civile, internationale, économique, politique, la miséricorde n'est pas de mise. Et c'est plutôt la violence des violents qui fait la loi un peu partout. Les événements avec Daesh sont terrifiants, et c'est toujours la même chose, hein. Chaque empire qui se grandit à toute vitesse, c'est pas compliqué. Des hommes arrivent avec des canons et des armes devant des gens qui sont pas armés. Ils ont vite fait de gagner. Mais quand la conscience du peuple se réveille, quand la mentalité collective de l'humanité se réveille, alors on s'aperçoit de l'inanité d'une telle démarche. Et on sait très bien que tout ce qu'on fait par la violence ne peut pas durer.
Mais alors qu'est-ce que la miséricorde à un échelon, on va dire, politique et social pourrait changer, par exemple ?
Alors, moi j'ai toujours la même idée, hein. C'est en méditant cette béatitude que nous pouvons obtenir de Dieu un cœur comme le sien, un cœur qui fait miséricorde, un cœur qui est attiré par la misère, non pas pour la condamner, non pas pour en profiter en l'enfonçant, celui-là on va encore pouvoir en tirer quelque chose, on le pressure jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, que l'on voit beaucoup beaucoup dans la machine économique. Et ce qui me frappe très fort, c'est parce qu'à cause de quelques-uns de mes parents, je vois que les gens qui ont une bonne place de cadre sont surexploités. Et à côté de ça, il y a plein de chômeurs. On se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'homme qui est pris dans la poigne de ceux qui tiennent l'économie, allez, on le presse le plus possible pour qu'il donne tout le jus qu'il peut, on le paye le moins possible. Et alors ce fonctionnement, c'est un fonctionnement sans miséricorde. C'est la loi qui règle les relations, c'est le marché, c'est-à-dire la courbe ascendante des gains pour ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent.
Donc ça, c'est ce que la miséricorde pourrait changer, enfin on entrevoit dans un système économique, social et politique. Vous avez dit tout à l'heure, si le pape François, enfin vous avez acquiescé quand j'ai dit cela, que le pape François avait peut-être déclaré cette année de la miséricorde, pas seulement pour un signe pour le monde, pour interpeller le monde, mais aussi peut-être pour l'Église. Est-ce qu'on pourrait finir là-dessus ? Est-ce quelle urgence de la miséricorde dans l'Église ?
Alors ça vient rejoindre la première réflexion sur le pape rappelant aux prêtres, ce n'est pas une salle de torture. Et à mon sens, quand il dit cela, il supplie tout le monde de dire « ne jugez pas, ne condamnez pas les personnes ». Et ça me paraît d'une urgence énorme. On voit bien en politique, au contraire, on vise la personne pour la foutre par terre. Jésus ne fait pas ça. La femme adultère, il aurait pu lui jeter la première pierre, il pouvait. Il n'a surtout pas fait ça. Il a obligé les autres à regarder leur propre violence et à s'en défaire. Et moi, je suis persuadé que lorsque un homme quelconque a dans son cœur ce mouvement de la miséricorde, ça fait tache d'huile autour de lui. Et je suis persuadé que dans la mentalité des mendiants, François et Dominique, c'est une pensée qui est très très forte. Changez votre cœur et vous changerez le monde. Durcissez votre cœur et vous durcirez le monde. Alors, c'est évidemment un grand relais. Ce n'est pas directement le jeu politique où on met de la police, où on met des appareils de télévision pour observer tout le monde, Big Brother, ça y est, on met ça en place. Non. Le christianisme, c'est toujours un appel au cœur. Et le cœur est précisément la seule partie de nous qui est capable de miséricorde, c'est-à-dire ce que le mot veut dire, misère et cœur. Alors, oui.
Allez-y, je vous en prie.
Oui, alors je suis persuadé que dans le christianisme, il n'y a pas, je dirais, un jeu politique immédiat, encore qu'on a eu des rois et des hommes politiques qui étaient profondément chrétiens, qui ont donné des lois chrétiennes, qui ont eu une influence directe sur leur homologue politique. Mais le christianisme demande à changer le cœur et non pas les institutions, et non pas les choses extérieures, mais le cœur. Et c'est le cœur qui, lui, peut toucher par proximité le cœur des autres. Et j'ai toujours eu... je sens bien que j'avance dans mon propos. J'ai toujours eu le sentiment que dans la communauté de l'agneau, on était très responsable de cela. On ne devait pas faire un espèce de bloc avec les pauvres contre les riches, mais faire constamment la navette entre les riches et les pauvres. Pourquoi ? Pour toucher le cœur de tous, pour dire aux pauvres, tu n'es pas dans le malheur, tu es dans l'épreuve. Et pour dire aux riches, toi aussi tu es dans l'épreuve. Et laquelle ? Celle de posséder et d'être possédé par ton argent. Voilà ton épreuve et voilà aussi le malheur dans lequel tu risques de tomber. Si tu tombes sous la loi de l'argent, si l'argent devient ton serviteur, si l'argent devient ton maître au lieu de ton serviteur, tu as tout perdu, même si tu es immensément riche. Alors voilà, je sens que l'urgence, c'est cela, c'est avoir un cœur miséricordieux pour que ça passe dans le cœur des autres et par là, dans les institutions de la société.
On fait une première pause et on vous retrouve après pour trouver quelques exemples, vie de saint dans la communauté, même si vous avez donné peut-être un premier exemple dans votre vie personnelle. Merci, frère Jean-Claude.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les béatitudes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin, comme chacune des émissions des lundis de ce carême, avec, je vous le rappelle, le frère Jean-Claude, qui est franciscain et cofondateur de la communauté de l'Agneau, communauté présente entre autres à Toulouse, et qui fait l'amitié à Radio Présence de nous recevoir, on va dire, dans la maison mère, dans l'Aude, au milieu des collines à Plavilla, où il y a une chapelle, un petit monastère, et puis quelques ermitages, et nous sommes dans l'un de ces ermitages, pour essayer d'entrer avec lui dans ces béatitudes. Aujourd'hui, nous parlons donc de la quatrième béatitude, « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Quels sont les saints que vous avez sélectionnés ou qui, pour vous, peuvent aider à comprendre, à entrevoir, à mieux saisir ce que dit cette béatitude? Vous vouliez parler d'abord de Mère Teresa.
Oui, parce que j'étais frappé par sa personnalité. Elle raconte qu'elle était dans une école plutôt de riches à faire l'enseignement qu'elle aimait beaucoup à des jeunes enfants fortunés. Et tout d'un coup, il me semble que dans un voyage, dans le train, devant la misère des pauvres, elle a senti un appel urgent à aller vers eux. Au fond, le mouvement même de Dieu vers la misère des hommes. Dieu, je répète, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Mère Teresa a ressenti cet appel au fond de son cœur. Il faut aller vers les plus pauvres pour les soutenir, pour les aimer, pour leur manifester la miséricorde de Dieu et la miséricorde de leurs frères. Et alors, elle a eu cette intuition d'ouvrir des mouroirs. Le mot chez nous est quelque chose qui est abominable, mais là où elle était, aux Indes, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fraternel. Quand nous disons mouroir, nous pensons à des vieux abandonnés. Quand Mère Teresa disait mouroir, elle voyait des gens qui allaient mourir dans la rue tout seuls, au milieu du bruit des voitures, avec beaucoup de risques et dans un abandon total. Elle allait prendre ces hommes ou ces femmes. Elle les ramenait dans un lieu où ils étaient entourés d'affection, lavés, nettoyés, placés dans un lit confortable et surtout entourés de l'affection et des soins de ces jeunes femmes, les sœurs de Mère Teresa. Elle a communiqué cet appel et son ordre a grandi très très vite, ce qui indique que ça répondait vraiment à un appel du cœur humain. Et ça, j'en suis convaincu. Celui qui exerce la miséricorde connaît un immense bonheur. Et alors Mère Teresa a réalisé ça pour notre temps. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait reçu les honneurs d'un enterrement national, je trouve ça très touchant dans un peuple qui n'est pas chrétien du tout. Alors il y aura forcément des difficultés, mais ces choses-là sont quand même très significatives de l'attente de la miséricorde dans le cœur de chacun et de savoir pour nous que c'est la miséricorde de Dieu qui peut nous pousser vers les autres.
Donc alors, ça, c'est comme une icône, en fait, du visage que le monde attend de Dieu, à vous entendre.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Vous vouliez reciter aussi saint François d'Assise.
Oui, oui, et dans saint François d'Assise...
Un autre épisode de sa vie, peut-être plus connu que ceux que vous avez pu citer précédemment.
Oui, c'est le baiser aux lépreux. Donc, saint François était un garçon jeune, élégant, riche, roi de la fête à Assise. Et il disait qu'il avait une horreur des lépreux. Et quand il passait devant une léproserie, le biographe dit, il se bouchait le nez avec les doigts. Et voilà qu'un jour, à cheval, il passe par là, dans la plaine d'Assise. On connaît encore le lieu de cette léproserie, bien sûr. Et il rencontre un lépreux avec sa claquette pour que tout le monde s'éloigne.
Sa crécelle, c'est ça ?
Sa crécelle, oui, c'est ça. Pour avertir qu'il est proche et que tout le monde doit s'écarter. Ce qui est un drame. Et puis, ça n'était pas juste par rapport à la contagion de la lèpre. Elle se passe par le contact de la salive, voilà, mais pas par l'air. Et François, poussé par une force intérieure très grande, saute de son cheval, court embrasser le lépreux et lui remet une bourse. Et puis après, simplement, c'est une rencontre fugitive, mais très impressionnante. Et alors,
pourquoi est-ce que ça parle de la miséricorde ?
Parce que le cœur de François a été bouleversé par la misère de ce lépreux. Avant cela, il les fuyait, il s'écartait d'eux et même il leur montrait son dégoût en se bouchant le nez, en passant devant leur maison. Et puis tout d'un coup, c'est le mouvement absolument contraire qui l'habite de l'intérieur. C'est plus fort que lui, il court embrasser cet homme, en l'embrasser et le serrer dans ses bras et lui donner de l'argent. Et puis il remonte sur son cheval, c'est donc une rencontre fugitive. Mais après, dans son testament, il dit « Quand j'étais encore dans les péchés, il me semblait fort amer de voir les lépreux, mais le Seigneur me conduisit parmi eux et j'exerçais la miséricorde à leur égard. Quand je suis revenu d'auprès d'eux, ce qui était pour moi amer, pour l'âme, qui était pour moi amer, s'était changé en douceur pour l'âme et pour le corps. » Et cette histoire, évidemment, dans le testament de François, est pour moi très éclairante. Et sachez-le, si vous vous approchez du pauvre et de celui qui vous dégoûte, ami ou ennemi, alors jaillira de votre cœur cette miséricorde et l'amertume se changera en vous, en douceur, pour l'âme et pour le corps. C'est une des choses qui m'a le plus impressionné dans François. Ah bon ? Son corps a été réjoui dans l'embrassade du lépreux. C'est inouï. Et je suis sûr que c'est donné à une quantité de gens qui vont, mais simplement, aller voir une vieille voisine à l'hôpital, aider une pauvre femme qui ne peut plus faire ses courses et choses semblables. Je suis convaincu que et alors, c'est la mise en route qu'il faut faire. Il faut vraiment être décidé, enfin je le veux. Je veux connaître cette miséricorde.
On continue avec les exemples. Vous vouliez citer encore deux exemples. La première, c'était un qui concerne votre vie communautaire.
Oui, alors je l'ai déjà dit, mais je veux bien le répéter. Hein. J'ai toujours eu le sentiment très fort que nous avions comme mission de faire la navette entre riches et pauvres. Et d'annoncer l'amitié des uns aux autres et vraiment de parler des uns aux autres, de parler aux riches des pauvres, mais aussi de parler des pauvres...
Aux pauvres des riches.
Merci Emmanuel. Parler aux pauvres des riches pour retisser un tissu social qui, lorsqu'il est fracturé, déchiré complètement, c'est toute la société qui en est malade. Et ça, je l'ai senti très vivement. En vivant parmi les sans-abri, je réalisais que cette approche des pauvres, des sans-abri, me rendait beaucoup mieux compréhensible à moi-même. Je me suis mû à les aimer, à mieux m'aimer moi-même, à ne plus avoir peur de mes handicaps, de mes complexes, de mes limites. Et les aimant, eux, je connaissais un autre amour de moi, et bien sûr, un autre amour de Dieu, et bien sûr, un autre amour de mes frères, et bien sûr, un autre amour des riches, qui eux aussi sont des pauvres, mais sans que le monde puisse le leur dire.
Est-ce que vous avez souvenir d'une fois où vous avez parlé, alors c'est vrai qu'on n'arrête pas d'utiliser le terme de pauvre, on a fait récemment une émission où une personne qui avait connu la misère disait que c'est une appellation qui le révulsait, donc pardon pour tous ceux que ça blesse, c'est par commodité qu'on utilise ce terme. Est-ce que vous avez souvenir d'une fois où vous avez parlé donc à un pauvre, pardon je mets des guillemets, des riches, et où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de la miséricorde qui est né dans son cœur à l'égard d'une personne qu'il pourrait de prime abord jalouser ou détester?
Je n'ai pas souvenir d'un dialogue spécifique en disant, tu sais, je connais un riche, il est comme ci, il est comme ça, et bon. Mais je vois bien que j'appartiens moi-même, par tout mon être, certainement pas à la classe des miséreux, pas du tout. Et c'était très touchant d'entendre les pauvres expliquer aux policiers quand ils venaient nous visiter, mais c'est notre famille. Et puis je me souviens très bien...
En parlant de vous, donc.
En parlant de nous. Et c'est pas du parler, hein. Mais je suis sûr que c'est très, très expressif de ce qui se passait entre nous.
Donc vous, c'est les frères avec qui vous étiez à la rue.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et quand les policiers venaient, et c'est de là, qu'est-ce que c'est ? C'est notre famille. Ça me touchait beaucoup comme réponse, hein. Et une autre idée m'a passé par la tête...
Ça vous reviendra.
Oui.
Donc, on a eu deux vies de saints, Mère Teresa, Saint François d'Assise, un exemple de vie communautaire. Est-ce que pour finir, vous auriez un exemple... Non. Est-ce que pour finir, vous auriez un visage qui vous revient, que vous avez croisé, d'une personne moins connue que Mère Teresa, et qui, pour vous, quand vous essayez de voir quel visage peut avoir cette miséricorde, vous pensez à ce visage ou à cette personne ?
C'est cocasse que vous me demandez, parce que tout de suite me surgit, quand vous dites ça, un de mes frères qui a été mon supérieur et avec qui je ne m'entendais pas du tout, hein. Et j'ai toujours dit, je considère comme une des grandes grâces de ma vie d'avoir vécu pendant 6 ans avec un supérieur que je ne supportais pas. Bon, c'est pas très drôle d'avouer ça.
Alors il faut expliciter, bon, du coup, votre propos.
Et alors, eh bien... cet homme qui vit encore, qui est plus âgé que moi, il a voulu terminer sa vie en EHPAD pour aller précisément vivre au milieu des pauvres de notre civilisation. Et ça me touche beaucoup. Moi, je le jugeais complètement de travers, et c'est lui qui me donne maintenant une grande leçon. Et ça me touche beaucoup, c'est ça qui me vient à l'esprit en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup, frère Jean-Claude. On va faire une deuxième pause et on va vous retrouver pour quelques conseils spirituels pour essayer de travailler à vivre cette béatitude à l'occasion de ce carême.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est donc la cinquième béatitude ce matin que nous voyons pour cette quatrième émission, puisque pour rappel, il y en a certaines qui sont regroupées pour cette série spéciale de carême avec le frère Jean-Claude de la communauté de l'Agneau. Pour finir cette émission, vos conseils. Alors, je me disais que vous alliez en parler à chaque émission, mais en fait, vous persévérez, c'est probablement que vous avez des bonnes raisons. Votre premier conseil est donc...
Eh bien, de vérifier, de savoir où vous en êtes par rapport à la miséricorde. Vérifiez ce qui se passe en vous devant quelque chose qui vous fait horreur, devant un ressentiment violent qui vous habite. Connaissez-vous, c'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, ou bien la fameuse prière de saint François « Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je ?» Donc, faites cet effort de connaissance de vous-même. Posez-vous la question, est-ce que je suis miséricordieux? Est-ce qu'il y a de la miséricorde qui jaillit quelquefois dans mon cœur? Et puis, une fois que vous avez fait cette vérification, voyez quels sont les tout petits gestes de miséricorde que vous êtes capable de faire.
Si vous permettez, excusez-moi, je fais juste un petit arrêt sur image. Parce que depuis le début de l'émission, vous nous parlez de la miséricorde comme... une manière d'entrer dans les sentiments de Dieu et donc d'avoir, si j'ai bien compris, en fait, pour la misère d'autrui, d'abord de la compassion et un mouvement qui désire rejoindre, accompagner, consoler, etc. Quid du pardon ? Je veux dire par là, apprendre à rentrer dans la miséricorde, c'est apprendre aussi à savoir pardonner. Est-ce que vous pourriez dire un mot de cela, peut-être ?
Oui, merci de lui dire ça, c'est tellement important.
Et c'est pas si évident ?
Non, pas du tout. C'est très très dur de pardonner. De demander pardon et de pardonner, c'est très dur. Et j'interprète comme ça le mot pardon. Pardon, c'est le don par excellence. Et à mon sens, c'est le don divin le plus grand que Dieu peut nous faire. De faire couler en nous le pardon qu'il nous donne. Et très curieusement, dans le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et cela veut dire qu'il y a en nous une capacité de pardon que Dieu ne nous demande que parce que nous en sommes capables. Et même si les gens disent « Pardonnez ça, je ne le peux pas » ou la même chose dans l'autre sens, « Ce que je fais est impardonnable ». Pour que le pardon circule, il faut le recevoir de Dieu et le donner à ses frères. Si on ne le reçoit pas de Dieu, il ne se passe rien. Si on ne le donne pas à ses frères, il n'y a aucun courant. Le pardon reste à stagner dans le fond de notre âme sans plus servir à rien. En attendant qu'un jour, par le geste du pardon, nous ferons couler le torrent du pardon de Dieu par nos cœurs vers nos frères. Vers nos ennemis. Aimez vos ennemis. Tu as raison de dire, le pardon, c'est vraiment un aspect essentiel de la miséricorde. Heureusement que tu le dis, j'allais passer à côté. C'est un point essentiel de la miséricorde. Et saint François, cette phrase très très belle, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et il continue. Et ce que nous ne pardonnons pas complètement, toi, Seigneur, fais que nous le pardonnions complètement. Je m'arrange pour dire cette prière tous les jours, deux fois au matin. Que le pardon vienne de Dieu, saisisse mon cœur, et de là jaillisse vers tous les ennemis. Et je sais que ça n'est pas facile, Je me bats avec ça. Encore aujourd'hui, de temps en temps, il s'allume des ressentiments idiots dans mon cœur, mais absolument insurmontables. Et je n'ai plus qu'une seule solution, comme avec ce frère, à dire « Seigneur, mais change mon cœur et il sera changé. Convertis-moi et je serai converti. »
Alors avant que vous repreniez l'exemple de ce frère, peut-être pour finir, Vous étiez en train de nous dire, avant que je vous interrompe, après, une fois qu'on a fait le point sur on va dire, l'état de notre cœur, de notre capacité à entrer dans cette miséricorde, à demander pardon, vous nous dites, voilà, il faut avancer, il faut mettre en acte. Alors, j'entends, comment vous aideriez un petit peu nos auditeurs à faire quelques pas à l'occasion de ce carême ?
Oui, très bien. Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire faire des toutes petites choses qui sont à portée de notre main. Et puis la fameuse phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en étant miséricordieux qu'on devient miséricordieux. Il faut donc pratiquer des petits pardons, des regards fraternels posés sur quelques misères, telle personne qui mérite de manière inimaginable. Au moins dans ma prière, au moins dans ma pensée, je peux essayer de la regarder avec bienveillance. Et puis après, si je croise son regard, de ne pas lâcher un regard indifférent ou hostile, et c'est pas facile. Hein. Je peux dire que toute ma vie, depuis mon enfance, je me bats avec ça. Et ces derniers jours, précisément, j'ai eu une occasion d'échouer complètement dans cette disposition. Vraiment, je pensais à quelqu'un. Je disais, il faut que tu fasses bonne figure et que tu fasses amitié. Eh bien, j'ai très bien senti que mon visage, en se tournant vers cette personne, se crispait. Je voulais sourire, j'ai fait une grimace contre moi-même. Alors je me dis, ce sont ces tout petits pas qu'il faut essayer de faire. Et comme toujours, hein, ces béatitudes sont là, tellement au-dessus de nous, tellement au-dessus de chacun d'entre nous, qu'il faut les prier. Seigneur, si tu ne me donnes pas ta miséricorde, ça va rester pareil. Et si tu me la donnes, je connaîtrai le plus grand bonheur, c'est sûr.
Dernier exemple, l'exemple qu'avec votre supérieur, merci de votre simplicité. Vous avez dit donc dans cette émission, et je crois dans une précédente, que vous aviez eu pendant un certain nombre d'années des grosses difficultés avec un supérieur. Et comment vous y êtes-vous pris, ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur tout d'un coup pour que cela bascule ?
Eh ben, c'est l'histoire de la porte. Excuse-moi, j'étais persuadé que je t'avais déjà raconté cette histoire. Là, voici, j'avais 35 ans, et j'étais donc avec cette difficulté, et ce supérieur aimait que les portes soient bien fermées, qu'on ne crie pas aux fenêtres, et moi ça ne m'allait pas du tout. Si je voyais des galopins du catéchisme, mon plus grand plaisir c'était de les appeler par leur prénom dans la rue. Et il me faisait remarquer que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et puis quand je laissais ma chaise un petit peu à l'écart en sortant de table, il prenait soin de la remettre soigneusement, le dossier contre la table. Et toutes ces choses-là méritaient un point inimaginable. Et tout d'un coup, ça s'est mis à tourner fou dans ma tête. Et je me réveillais le matin en me disant, mais s'il pouvait se casser une jambe pendant 3 semaines, on ne verrait plus sa sale figure. Et après avoir pensé ça, je m'effrayais en me disant, mais Jean-Claude, ton frère, ton supérieur, qu'est-ce qui t'arrive ? Et ça revenait tous les matins, et je suppliais Dieu en disant, mais qui suis-je et pourquoi c'est comme ça ? Mais je ne le veux pas. Alors j'ai même fait cette chose incroyable, je lui ai enlevé ses poignées de vélo pour qu'il ait froid aux mains et qu'il ait une dispute avec les enfants du catéchisme qu'il aurait vraisemblablement accusé. Et après, quand je fais une chose pareille, je me dis, mais comment est-ce possible que j'ai fait ça ? Je ne sais d'ailleurs pas comment c'est fini cette histoire. Je pense qu'il y a un blanc dans ma mémoire qui ne doit pas être très glorieux. Et puis j'en étais là. Et un jour, je sors de chez moi, je devais traverser sa salle de catéchisme, et il y avait 2 portes qui étaient ouvertes. Et tout d'un coup, la machine se met en route et s'affole complètement. Ah, les portes, c'est pas moi qui les ai ouvertes, c'est pas moi qui vais les fermer. Tu veux que je les ferme tes portes, je te les claque tes portes. Tu veux que je les claque tes portes, je te les brûle tes portes et toi avec. Et je marchais en traversant sa salle de catéchisme avec cette pensée qui s'emballait et qui devenait complètement folle. Je descends l'escalier et dans le tournant de l'escalier, je ne sais pas ce qui m'arrive, je sens ma main qui parle, je la suis et elle se pose gentiment, doucement, fraternellement, tendrement, sur la poignée de la porte pour la fermer tranquillement. Cet événement, j'avais 35 ans, je l'ai dit, Je crois que ça a été vraiment un des grands, grands tournants de mon existence. Je le raconte 36 000 fois d'ailleurs. J'espère que je la déforme pas trop d'une fois à l'autre. Mais en tout cas, ça reste dans ma vie un moment essentiel. Ah oui, et alors j'ai compris quoi ? Eh bien que la bonté de Dieu pouvait visiter un cœur endurci. Et ça, c'est capital. Pour regarder, se regarder soi-même, regarder son avenir, regarder les autres. Ça revient à ce qu'on disait, je ne sais plus quand, là. voilà que le mot m'échappe. Pardonnez, on vous pardonnera. Ne condamnez pas parce que vous ne savez pas. Et puis bon, mais il me manque un mot.
Voilà. Et ben c'est pas grave, vous en avez dit tellement qui sont éclairants qu'on vous en voudra pas. Merci beaucoup frère Jean-Claude pour cette 4e émission sur cette 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. On vous retrouve encore de lundi, lundi prochain, et puis le lundi qui d'entrée dans la semaine sainte qui suit les rameaux. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.